Yigal Palmore, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Yigal Palmore, vous êtes ancien diplomate israélien. Alors on va bien sûr parler avec vous de cette réforme du système judiciaire en Israël qui provoque beaucoup de réactions, énormément de manifestations. Il y a eu une très importante manifestation il y a quelques jours en Israël avec énormément de gens. On a même vu par exemple Benny Begin et son petit-fils manifester contre ce projet de loi concernant la réforme du système judiciaire.
Oui, bien sûr, il y a des personnalités de droite, des anciens, des historiques du Likoud qui se sont prononcés contre, soit en venant assister aux réunions de la commission des lois à la Knesset et en se prononçant là-bas, soit en écrivant des éditos, soit en participant physiquement aux manifestations. Et effectivement, Benny Begin a été remarqué lors de cette manifestation sans précédent. Environ 100 000 personnes devant la Knesset, c'était sans précédent, une véritable ambiance de fête, je dois dire, avec un océan de drapeaux bleus et blancs et une ambiance bon enfant, mais les gens étaient vraiment chauffés à blanc contre ce que le gouvernement appelle une réforme. Et ce que les opposants appellent un véritable coup d'État et un changement de régime. Les esprits sont loin d'être apaisés. Je remarquerai tout de même une déclaration surprenante du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, pas particulièrement connu pour sa modération politique. Il a dit, ces gens qui sont venus manifester aujourd'hui, il parle de la grande manifestation, devant la Knesset, il a dit « ce sont tous des gens bien, des patriotes qui veulent, qui cherchent le bien du pays et je les admire ». Alors, est-ce que cette déclaration ne servirait qu'à noyer le poisson, qu'à tromper un peu les… Enfin, bon, on ne sait pas. Mmh. Est-ce qu'il y a dans les coulisses un véritable travail de médiation par lequel le président Herzog arrive à rapprocher les deux parties pour les mettre d'accord éventuellement sur les cinq points qu'il a présentés en public, plus ou moins? On ne le sait pas.
En tout cas,
on a l'impression qu'il se passe des choses, mais on verra bien.
En tout cas, Yitzhak Herzog, le président de l'État, a beaucoup consulté hier soir. Il a vu Yair Lapid, Benny Gantz, Simcha Rotman, qui est le président de la commission des lois. On sent que le président de l'État accentue la pression, hein.
Oui, tout à fait. Je crois que devant la pression du grand public, de l'opinion, devant les sondages qui montrent que les trois quarts de l'opinion israélienne sont contre cette réforme telle qu'elle est présentée par le gouvernement, les gens ne seraient pas contre une réforme a priori, mais pas celle-ci, pas dans la manière où cela est fait. Donc, devant les chiffres, devant les manifestations, il y a peut-être certains qui fléchissent, peut-être Smotrich, peut-être Levin, on ne le sait pas encore, peut-être Netanyahu lui-même, mais on voit que le député Rotman, président de la commission des lois, lui cherche la fuite en avant, et avec lui des députés, des ministres comme David Amsellem qui menace d'écraser l'opposition et de jeter en prison tous ceux qui enfreindraient la loi, et d'autres évidemment. Il y a donc ceux qui cherchent la fuite en avant et ceux qui peut-être chercheraient à chercher un compromis avec une opposition qui elle aussi est divisée. Mm-hmm. Il y a d'un côté Merav Mikhaïli, la patronne des travaillistes, qui dit « il n'y aura aucun compromis, jamais, c'est même pas la peine d'en parler », et de l'autre côté, Benny Gantz, qui cherche le dialogue et qui le dit, qui le redit, tout en restant très ferme sur sa critique des démarches juridiques du gouvernement.
Ouais.
Et évidemment, Yair Lapid qui donne un message ouvert au dialogue d'un côté, mais très ferme sur le fond de l'autre côté. Donc, opposition divisée, mais coalition divisée également.
Ouais, et puis, vous faisiez référence au député David Absalem qui reprend certains poncifs, à savoir que ceux qui manifestent, c'est une élite, ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie, qui ont une Rolex au poignet, et il dit ça du haut de la tribune de la Knesset avec lui-même une montre Cartier à son poignet.
Oui, une montre Cartier identifiée par les experts comme coûtant aujourd'hui sur le marché 25 000 shekels. Donc, ce n'est pas exactement un petit pauvre. Et puis, il a participé à une émission de télévision il y a, de grand public il y a quelques mois. Ça a fait un grand buzz. Et certains sont revenus sur les images, et là, il portait une montre, une autre montre d'un horloger suisse très connu, pardonnez-moi si j'ai oublié son nom, et cette montre-là a été évaluée à environ 30 000 shekels. Donc, on voit bien que cette histoire de pestiférer contre les autres en utilisant des stéréotypes et des idées reçues identitaires sur la base d'une appartenance communautaire, ça ne peut pas marcher très loin, mais c'est son fond de commerce, il est connu pour ça. Et il n'arrête pas. Alors, on a ça d'un côté, et avec lui aussi la ministre de la communication de la Hasbara, qui fait plutôt de la Hasbara contre des Israéliens qui sont opposés au gouvernement et qui tient des propos plus ou moins semblables. Voilà, c'est un peu triste que ça soit le seul message du gouvernement, mais peut-être qu'avec l'initiative de Herzog, un chemin du dialogue sera trouvé, et peut-être que, si on est optimiste, on peut espérer un compromis raisonnable dans les semaines qui viennent. Mais on n'est pas forcé d'être optimiste quand on entend certains porte-parole du gouvernement.
Alors, autre sujet de l'actualité, c'est la visite hier du ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, en Turquie. Il a rencontré son homologue, mais il a également rencontré le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Alors, cette visite intervient alors après, bien évidemment, le tremblement de terre en Turquie, tremblement de terre meurtrier. Et d'ailleurs, les Israéliens ont envoyé plusieurs équipes, deux équipes sur place, près de 300 hommes, des militaires, des membres du Magen David Adom, et certains sont toujours sur place.
Oui, alors, Tsahal a déployé sur place 450 personnes. Ce sont les équipes des recherches et sauvetages, mais également un hôpital militaire. Donc, ça nous fait 450 militaires israéliens déployés sur le terrain, auxquels il faut ajouter les équipes de Magen David Adom et d'autres organisations humanitaires israéliennes qui sont allées là-bas parce qu'ils sentent que c'est leur mission solidaire d'aider les Turcs dans ces moments extrêmement pénibles. On ne sait pas le nombre exact d'Israéliens qui sont aujourd'hui en Turquie, mais je crois que les autorités turques ont bien vu que les Israéliens étaient parmi les premiers à leur tendre une aide autant officielle que de la part de la société civile, et ils apprécient. Vous savez, ce n'est pas évident que le chef de l'État turc rencontre un ministre des Affaires étrangères. Protocolairement parlant, ce n'est pas du tout obligé. Le fait qu'il ait insisté, que le président Erdogan a insisté à rencontrer le ministre des Affaires étrangères israélien, c'est un geste qui montre l'importance que le président turc attache à la relation avec Israël. Et cela doit être remarqué parce que une fois dépassée la tragédie du tremblement de terre, il y aura un avenir à reconstruire et il y a des relations diplomatiques entre les deux pays qu'il faut aussi reconstruire. Et les deux pays, je crois, sont destinés à collaborer sur les deux plans à la fois.
Je ne sais pas si vous avez vu cette information passer. La France cherche un successeur à Mahmoud Abbas. Alors, c'est plutôt étonnant, mais le président de la République, Emmanuel Macron, a chargé 5 anciens et actuels consuls généraux de France à Jérusalem, 5 anciens et actuels ambassadeurs de France à Tel Aviv et 5 anciens actuels patrons de la DGSE, les services secrets français, d'établir chacun de leur côté une liste de 2 noms de Palestiniens qui pourraient succéder à Mahmoud Abbas. Comment vous comprenez cette intervention du chef de l'État français ?
Ben, c'est un peu bizarre, non ? Je crois que le candidat idéal pour succéder à Mahmoud Abbas doit être celui qui plaît à son propre peuple, à son électorat, et pas celui qui est désigné par des étrangers, aussi bien motivé soit-il. C'est aux Palestiniens de choisir leur chef, c'est aux Palestiniens de choisir leur projet politique. Après, bon, on aimerait bien que ça soit plus ou moins compatible avec une volonté de compromis avec Israël, éventuellement un accord de paix, évidemment, un arrangement, un accord permanent ou un accord... on aimerait bien que ça soit à faveur du dialogue, mais un leader installé par des étrangers, par une puissance étrangère ou des puissances étrangères que le peuple palestinien n'a pas forcément choisi ou ne suit pas, ne veut pas suivre, ça servirait à quoi ? Ça servirait à rien du tout. Ça ne serait pas un leader, ça ne serait pas quelqu'un qui peut mener son peuple vers un horizon plus prometteur. Ça serait quelqu'un qui susciterait l'opposition, qui susciterait le déni, qui susciterait la résistance. Et on sait très bien ce que ça signifie dans des termes palestiniens. Ça veut dire la violence, ça veut dire le Hamas et le djihad islamique qui tenteraient de prendre le pouvoir par un coup d'État violent, comme ils l'ont fait à Gaza. Donc, je crois que des pays animés par de bonnes intentions, qui veulent le bien, qui sont des amis, qui veulent le bien du peuple palestinien, devraient plutôt permettre aux Palestiniens de désigner leur chef de file, leur gouvernement, leur président, et ne pas imposer de l'extérieur quelqu'un qui plairait peut-être aux uns et aux autres à l'extérieur, mais qui n'aurait pas forcément un poids intérieur qui lui permettrait d'être un véritable dirigeant.
Yigal Palmor, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes ancien diplomate israélien. Bonsoir.
Bonsoir, Pierre.